Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Kader Konaté.
À la une de l'actualité, l'armée burkinabé a bombardé une base terroriste dans la forêt de Nassoumbou dans le nord, détruisant ainsi des pick-up, des véhicules type V8 et des munitions. La Côte d'Ivoire met en place une assistance humanitaire en faveur de 18 000 réfugiés burkinabés ayant fui l'insécurité. Le religieux zambien tué le 29 mars dernier dans les tirs de sommation aux abords de la présidence a été inhumé hier mercredi. Il repose désormais au cimetière de la maison La Vigerie de Kosogin. Et puis, tarification des téléphonies mobiles au Burkina, la loi donne libre choix aux téléphonies mobiles de fixer librement les tarifs de détail. Vous entendrez donc dans un instant Salamata Rwamba, directrice de la régulation des marchés fixes et mobiles de l'ARCEP, qui était donc invitée au journal de 20h à la télévision nationale. En football, Ligue des Champions aller, le Real Madrid remporte ce premier acte 2-0 à domicile contre les Blues de Chelsea et se retrouve en ballotage favorable. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je vous l'annonçais en titre, selon nos confrères de l'agence d'information du Burkina, citant une source sécuritaire, l'armée burkinabé a bombardé hier une base terroriste enfouie aux profondeurs de la forêt de Nassoumbou, dans le nord, détruisant ainsi des pick-up, des véhicules type V8 et des munitions. L'agence d'information du Burkina de préciser que grâce aux recherches des services de renseignement, les frappes de précision effectuées par les vecteurs aériens ont permis de détruire également des dépôts de carburant, y compris les véhicules, dont des pick-up et des V8, qui servaient sans doute au transport donc des cadres et chefs terroristes. Justement, obligés de fuir les zones d'insécurité, près de 18 000 Burkinabés ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire, selon le communiqué du Conseil national de sécurité ivoirien tenu hier mercredi. L'État de Côte d'Ivoire a donc décidé de la mise en place d'une assistance humanitaire en faveur de ces réfugiés venus du Burkina Faso. Plus de détails avec Jean-Paul Ouidraogo.
Dans un communiqué du Conseil national de sécurité ivoirien tenu hier, l'on apprend que le président Alassane Ouattara a donné des instructions pour la prise en charge de ces 18 000 réfugiés burkinabés. Concernant l'afflux de réfugiés en provenance du Burkina, le Conseil national de sécurité note avec satisfaction le démarrage de la mise en place d'une assistance humanitaire en faveur de ces personnes qui ont été accueillies par les communautés locales dans les zones nord et nord-est de la Côte d'Ivoire. Peut-on lire dans le communiqué de ce conseil tenu ce mercredi? Le communiqué poursuit que cette mesure, qui fait suite aux instructions du chef de l'État lors du dernier Conseil national de sécurité, a notamment permis à ce jour, avec l'appui du corps préfectoral, des autorités locales et des partenaires humanitaires, le recensement biométrique de 4 235 réfugiés sur les 18 846 estimés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR et l'identification de l'aménagement au cours de deux sites de transit dans les départements de Ouangoulodougou et Bouna, destinés à accueillir provisoirement ces réfugiés dans l'attente de leur retour dans leur pays d'origine.
Retour à Ouagadougou, le frère Sens Moses Simkonne a été inhumé hier mercredi à Ouagadougou. Le religieux zambien, mortellement atteint par balle le 29 mars dernier aux abords de la présidence, repose désormais au cimetière de la maison La Vigerie à Kosogin, dans la périphérie de Ouagadougou. Auparavant, une messe a été célébrée en son honneur à la paroisse Saint-Jean 23 de Ouagadougou. Plus de détails avec Pierre Badolo.
Ce 12 avril 2023, le clergé du Burkina Faso, de l'Afrique de l'Ouest et de la Zambie, avec à sa tête son éminence le cardinal Philippe Ouidraogo et plusieurs fidèles catholiques et apostoliques se sont retrouvés à la paroisse Saint-Jean 23 de Ouagadougou pour les derniers hommages du frère Moses Sensé Simon Kondé, emporté tragiquement le 29 mars devant la présidente du Faso.
Nous présentons nos sincères condoléances à la Société des missionnaires d'Afrique
La famille du regretté a effectué le déplacement depuis la Zambie avec l'aide des autorités du Burkina Faso. Pour ses derniers hommages, en terre des hommes intègres, où leur fils Moses achève sa mission ecclésiastique. Elle n'est pas seule dans sa douleur. Les autorités zambiennes, à travers l'ambassadrice du Zambie au Burkina Faso, est présente au nom de son pays pour accompagner la famille de Moses Nsé Simon Kondé dans cette épreuve douloureuse qu'elle traverse. Le gouvernement du Burkina Faso a lui aussi marqué de sa présence à cette cérémonie d'hommage au regretté Moses Simon Kondé. Le ministre délégué chargé de la sécurité, Mahamoudou Sana, a présenté ses condoléances à l'Église catholique et à la famille biologique du frère Moses. Après l'absoute à la paroisse Saint-Jean 23, le cortège funèbre a pris la direction de Kosoguin pour l'inhumation du frère Moses au cimetière de la maison La Végérie où il repose désormais. Né le 28 juin 1988, le frère missionnaire d'Afrique Moses Nsé Simon Kondé, originaire de la Zambie, était en service à la maison d'accueil des pères blancs à Ouagadougou. Il trouva la mort le 29 mars dernier à Ouagadougou devant la présidente du Faso. Des enquêtes sont en cours pour élucider les causes des événements tragiques qui ont emporté Moses Nsé Simon Kondé.
Dans la suite de l'actualité, depuis quelques jours, des voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer le coût élevé des tarifs des sociétés de téléphonie mobile au Burkina Faso en direct au journal de 20h à la télévision nationale. La directrice de la régulation des marchés fixes et mobiles de l'ARCEP a levé le lièvre. La loi en vigueur au Burkina Faso ne permet pas à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes d'encadrer les tarifs de détail des opérateurs de téléphonie mobile, selon donc la directrice. Ils sont donc libres de fixer leur tarification. Nous écoutons Salamata Rwamba.
Le débat qui se mène actuellement est légitime, c'est un débat légitime qui est mené. Et dans notre pays, il faut dire que le secteur des communications électroniques est encadré par une loi et des textes d'application qui sont des décrets, des arrêtés. Et cette loi donne des compétences à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur la tarification. Donc, parlant de tarifs, on a deux types de tarifs. On a les tarifs de gros, c'est-à-dire les tarifs qui sont appliqués entre deux opérateurs. Ça, c'est vraiment de la compétence de l'autorité de régulation qui les fixe. Et d'un autre côté, on a les tarifs de détail. Tarifs de détail, c'est les tarifs appliqués au consommateur final. Donc, pour ces tarifs, c'est la liberté de fixation en fait des tarifs conformément à la loi sur la concurrence. Donc, les opérateurs fixent les tarifs de manière libre. Cependant, il y a un petit encadrement qui veut que ces tarifs-là soient transparents vis-à-vis du consommateur, donc que l'opérateur donne le maximum d'informations concernant les offres commerciales qui sont appliquées aux opérateurs. Pour la transparence, il faut dire que c'est appliqué, mais pas totalement appliqué. Et c'est un point sur lequel nous travaillons déjà. Et en Côte d'Ivoire, c'est certainement leur loi qui permet à l'autorité de régulation, la RTCI, d'encadrer en fait ces tarifs, les tarifs de détail au niveau de la Côte d'Ivoire. Chez nous, la loi n'est pas allée jusqu'à ce point. Donc nous espérons peut-être que dans le cadre de la relecture du cadre juridique sur lequel nous travaillons aussi, cette prérogative-là sera reconnue à l'autorité de régulation pour aller plus loin.
Salamata Rwamba, que vous venez d'écouter, elle est donc directrice de la régulation des marchés fixes et mobiles de l'ARCEP. Le 30 avril prochain marquera la fin de formation du programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage PAFPA au Burkina Faso, lancé depuis le 22 février 2019. Le PAFPA a pu former en tout plus de 8 000 jeunes hommes et femmes au Burkina. Des formations dans le secteur de l'agro, s'il vous plaît. pastorale et qui vont donc permettre aux apprenants de disposer de connaissances et de compétences pour exercer le métier et créer durablement des revenus. Après 4 ans, que deviennent donc ces bénéficiaires de ce projet? Une question qui intéresse non seulement les autorités, mais aussi les partenaires techniques et financiers qui ont partagé les résultats du programme hier dans la cité de l'Épervier à Manga, dans le centre-sud. Suivons donc ces résultats avec Charles Da.
Ils sont 1369 jeunes qui ont été formés en 4 ans dans le domaine de l'agro-silvopastoral, du BTP et du solaire grâce au programme d'appui à la formation professionnelle et de l'apprentissage PAFPA. Aujourd'hui, la satisfaction est totale dans le centre-sud car 537 jeunes ont trouvé le chemin de l'insertion sociale. Rasmane Kongo, bénéficiaire.
Mais après la formation, plus l'appui financier et matériel, actuellement, il peut avoir au moins une dizaine de têtes de moutons à embaucher. Mais avant ça, c'était 2, peut-être 3.
La question du chômage est au cœur des débats, surtout en ces périodes de crise sécuritaire où l'auto-emploi est fortement impacté. Grâce à ce programme, le Conseil national du patronat burkinabé s'en félicite. Issa Kamporé, représentant du président du Conseil national du patronat burkinabé.
Donc techniquement, c'est dans les domaines de l'agro-silvopastoral et des métiers émergents. Parce qu'il y a des métiers où on sent qu'il y a besoin de qualifier, le BTP, le solaire.
La Suisse, partenaire financière, se réjouit des résultats du PAFPA et est déjà en réflexion sur un nouveau programme de formation. Jean-Michel Lima, chef de coopération.
La Suisse est vraiment satisfaite de ce programme parce qu'elle a atteint les objectifs qui étaient visés dès le départ. Alors, on est depuis quelques mois maintenant en réflexion sur, un nouveau programme de formation professionnelle et l'État en fait partie. Il faut que la formation professionnelle soit financée par l'État.
Vu l'importance du programme d'appui à la formation professionnelle et de l'apprentissage PAFPA, les autorités entendent consolider les acquis pour le PAFPA 2. Massadalo Yvette Nakoulma, gouverneur de la région du Centre Sud.
Il faut souligner que nous sommes troisième, voilà, sur 6 régions, une deuxième phase qui va permettre vraiment de consolider les acquis qui ont été engrangés grâce à la mise en œuvre de ce premier programme et dans notre région.
Le programme d'appui à la formation professionnelle et de l'apprentissage PAFPA a concerné 6 régions. Dans ces régions, le programme a pu former 8316 apprenants, dont 3814 sont en situation de travail après leur formation, soit un taux d'insertion professionnelle de 59%.
Dans un contexte sécuritaire incertain, il est important de localiser avec précision toutes les structures éducatives dont des milliers sont fermées actuellement. Depuis mardi dernier jusqu'au 10 mai 2023, se tient donc sur toute l'étendue du territoire national le recensement avec géoréférencement des structures éducatives. L'édition 2023 vise entre autres à permettre au ministère de l'Éducation de disposer de données fiables pour ses besoins de planification, de pilotage et de gestion de l'éducation. À l'issue d'un long processus de préparation, cette opération entre dans sa phase pratique et le top départ a été donné hier en présence de Somena Traoré et Judith Traoré.
Initié par la Direction générale des études et des statistiques sectorielles du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales avec l'appui financier de la Banque mondiale à travers le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest, le recensement avec géoréférencement des structures éducatives poursuit plusieurs objectifs. Olivier Bagré, directeur général des études et des statistiques sectorielles du MENA PLN.
Un des objectifs de ce recensement, c'est de nous assurer que nous avons dans nos bases de données l'ensemble des structures éducatives, publiques et privées, de tous les ordres d'enseignement. Un des objectifs aussi, c'est d'améliorer la planification, notamment la micro-planification, pour l'implantation des structures éducatives, les nouvelles structures à créer.
Durant un mois, ici, dans la région du Centre, ce sont 85 agents recenseurs, 21 contrôleurs et 2 superviseurs qui, munis de tablettes, s'entretiendront avec les responsables des structures éducatives pour la collecte des données, une collecte qui se déroule également sur l'ensemble du territoire dans ce contexte d'insécurité. Pour faire face aux défis sécuritaires, la Direction générale des études et des statistiques sectorielles du MENA-PLR dit avoir développé une stratégie.
Nous sommes en train de développer des stratégies pour mener le recensement là où cela est possible et de différer le recensement en espérant une amélioration de la situation sécuritaire sur le terrain. Nous avons déjà fait la cartographie des zones où nous ne pouvons pas accéder et ces zones-là pourront être couvertes plus tard quand la situation va s'améliorer.
Le recensement avec géoréférencement des structures éducatives concerne les structures d'éducation préscolaire, les établissements d'enseignement primaire, les structures d'enseignement général et celles de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle du post-primaire et du secondaire et les centres d'alphabétisation et d'éducation non formelle construits.
Justement, en lien avec l'éducation, des enfants de 14 à 17 ans initiés aux métiers professionnels tels que la couture et la mécanique au centre d'éducation et de formation CASA de Famiglia, situé au quartier Tanguin à Ouagadougou. Parmi eux, des enfants déscolarisés issus de familles vulnérables et de déplacés internes. Ils y apprennent donc la teinture, la broderie, le tissage et la couture. Le compte-rendu est de Jean-Baptiste Ramdé et Fatimata Bouli avec la voix de Mariam Souma.
Ils sont environ 76 enfants formés au centre mix Casa de Familia pour l'année 2023. En plus des enfants issus des familles vulnérables, le centre reçoit également des enfants déplacés internes. Venus de milieux différents, ils sont 15. Ces enfants déplacés internes qui ont été inscrits grâce aux services sociaux du centre Casa Familia au titre de l'année 2023.
Comme nous l'avons dit, le centre reçoit des enfants vulnérables par l'intermédiaire de l'action sociale, mais souvent nous recevons des cas même qui ne sont pas orientés par l'action sociale. Donc nous essayons de comprendre les situations et de les prendre en charge. L'année, depuis 3 ans de cela, nous recevons des déplacés internes, souvent en début d'année, souvent en milieu d'année, mais j'avoue qu'avec ces déplacés internes, ça va même en milieu d'année, l'enfant arrive à s'intégrer et à suivre correctement les cours. Donc nous ne recevons pas seulement que les personnes vulnérables sur place ici, mais nous recevons aussi les déplacés internes.
Et pendant 4 ans, ils vont apprendre à teindre, à tisser le faceau d'Anfani, ainsi que la broderie à main et la haute couture. Des mains habiles synchronisées au mouvement des pieds, les enfants s'appliquent avec passion.
Je fais la première année au centre Casa Familia. À l'école, on pratique également tissage à la main et broderie à la main, la couture, tissage. Je suis très fière d'être là.
Je fais la classe de 3e, puis je suis là pour apprendre la cour, les habits, pour les hommes et puis pour les femmes en même temps. Bon, je suis là il y a 3 ans. J'ai fait la première année, 2e année ici et ensuite la 3e année.
Dans ce foyer d'adolescents, outre la difficulté liée à l'éducation, le centre est confronté au manque d'outils de travail et souhaite renforcer ses capacités. Pour cela, la directrice du centre demande le soutien et l'accompagnement des autorités pour une formation plus effective de ses enfants.
Mot de culture dans ce journal, ils sont désormais connus les nominés des différentes catégories de la 21e édition des Koundé. 5 artistes sont retenus pour le prestigieux prix du Koundé d'or. La liste a été dévoilée au cours d'une conférence de presse hier mercredi. Cette 21e édition des trophées de la musique au Burkina Faso se tiendra dans la nuit du 12 mai en entendant les grandes articulations avec Fawzia Zongo et Solomon Ninkema.
Kid Alif Naba, Flobi, Greg Burkimbila, Smati ou encore Tania va remplacer Don Chab de Batoro au soir du 12 mai puisque ce sont eux les nominés pour la catégorie Koundé d'or 2023. Au total, 75 artistes du Burkina comme de l'extérieur sont retenus et répartis dans 15 catégories. Cette édition, signe de résilience, se veut un vecteur de promotion de bonne image du pays des hommes intègres, comme le FESPACO ou encore le CIAO. Salfo Soré, alias Japres, commissaire général de Koundé.
Les Koundé vont se faire dans des conditions assez difficiles que vous connaissez, mais comme j'ai dit, c'est une preuve de résilience et de résistance, à l'instar du CIAO, du FESPACO et de la SNC qui est en train de vouloir s'éteindre. C'est pas tout à fait évident, donc ces 3 événements cités, c'est des événements j'allais dire étatique. Les coulées sont privées, donc on a besoin de beaucoup de soutien pour pouvoir réaliser cette activité aussi qui a sa place dans le paysage culturel du Burkina Faso.
Koundé Music Export est l'innovation majeure de cette édition. Un concept qui vise à vendre les talents des artistes burkinabés au-delà de nos frontières. Papu Zongo, commissaire artistique de Koundé.
Nous avons pensé qu'on pouvait trouver des opportunités pour faire voir la musique burkinabé au-delà du Burkina Faso. Donc avec un partenaire, on a mis ce projet sur pied. Donc en marge de Koundé, des artistes viendront rester devant des professionnels, des tourneurs, des promoteurs de spectacles, des patrons de festivals. Et puis, ça sera à eux d'apprécier.
Le critère principal de sélection de cette 21e édition est la production des œuvres sorties et diffusées entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2023. Comme à chaque édition, un concert grand public avec à l'affiche des artistes de renom va se tenir au lendemain de la cérémonie de remise des trophées, c'est-à-dire le samedi 13 mai.
Omega Sport.
Actualité sportive avant de clore ce journal. En football, le Real Madrid s'est imposé hier 2-0 face à Chelsea dans le premier acte des quarts de finale de la Ligue des Champions. Sans trembler, le Real Madrid a battu Chelsea grâce à des réalisations de l'ex-international français Karim Benzema et de Marco Asensio. Dans l'autre rencontre, hier également, les Milanais l'emportent face aux Napolitains et prennent donc un avantage non négligeable avant le match retour la semaine prochaine. Le but milanais est signé Benacer à la 40e minute. Et c'est la fin de ce journal mis en onde par Edwige Tendrebevo à la présentation. Je suis Abdoulkader Konaté. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.